C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau, les amis. Je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut à tous. On espère que vous avez passé un très bon week-end. On va vous amener quelques petites news toutes fraîches des derniers jours ou des jours à venir sur les médias sociaux.
Qu'est-ce que tu as de beau, mon cher ?
Une petite étude de e-marketeur toute simple sur Snapchat qui prédit de beaux jours pour l'application. De récentes prédictions donc faites par le site e-marketeur prévoient un bel avenir. Ça commence dès maintenant. En 2018, la plateforme comptait 256 millions d'abonnés et elle est passée en un an à 293 millions, soit 14% d'augmentation. L'étude en question prévoit une montée constante des utilisateurs de Snapchat jusqu'à 2023 où la plateforme devrait atteindre les 356 millions d'utilisateurs. Ça commence à faire une belle évolution. Et pour rappel, cette année, il y a eu une nouvelle refonte qui a fait un gros tollé aux États-Unis. Il y a eu la création de filtres babyface et transgenre qui ont par contre fait les gros choux gras de la plateforme et qui ont fait revenir plein d'abonnés dessus.
Donc Snapchat se porte bien en fait.
Snapchat se porte bien et selon les prédictions se portera encore bien pour quelques années.
Ouais, ça c'est intéressant parce que souvent on nous pose la question, hein, est-ce que Snapchat c'est mort ? Et ben en fait moi je pense que Snapchat va vivre éternellement.
Oui, c'est
petitement,
ça.
Mais éternellement. C'est ma conviction.
Tout le monde leur pique leur fonctionnalité mais Snapchat s'en sort très bien au final de son côté.
Eh bien écoute, puisque tu parles de Snapchat, à mon tour avec effectivement Snapchat qui se porte plutôt pas mal et surtout qui est toujours en général un cran en avance, hein, tu sais, sur ses fonctionnalités de filtre notamment, hein, c'est vraiment le pionnier sur ce sujet. Et bien là, Snapchat arrive avec un nouveau filtre dans lequel il nous propose de jouer à la machine à remonter le temps. Alors justement, hein, Snapchat souvent est source d'inspiration pour les autres plateformes, et bien pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ils ont pompé Snapchat. Bah ouais, ça arrive, c'est pas Instagram qui pompe sur Snapchat, cette fois-ci, c'est Snapchat qui pompe sur FaceApp. Est-ce que tu te souviens de FaceApp ?
Bah hein, oui, FaceApp, c'est le truc qui nous rendait plus vieux.
Et oui, application... russe qui avait fait un carton énorme il y a quelques temps de ça, qui te permettait effectivement de voir quelle gueule t'aurais quand t'auras 30 ans de plus. Voilà, c'était assez drôle, hein, ça reste assez drôle. Elle avait été assez décriée parce qu'on se demandait ce qu'il allait advenir des photos,
ouais, des
notamment.
Photos,
hein,
ouais.
Voilà, bon, bah, comme toutes, elles finiront sur le web à un moment donné ou l'autre. Et bien là, Snapchat copie FaceApp et lance un filtre qui s'appelle Time Machine, une fonctionnalité qui s'appelle Time Machine. En gros, c'est une lance qui te permet de modifier ton âge en faisant glisser un curseur sur l'écran. En gros, tu peux te rajeunir, ça c'est assez marrant, et puis tu peux te vieillir. Ça ressemble vachement à FaceApp, c'est même un peu moins bien fait que FaceApp, mais ceci étant, cette fois-ci c'est en vidéo, donc tu peux parler.
Après, Snapchat avait déjà en gros tout ça dans ses tiroirs, hein. Je te parlais de Babyface, c'est un truc qui est sorti cette année qui te faisait une tête de bébé. Le vieux, c'est un des premiers trucs qui est sorti chez eux aussi. Là, ils ont condensé en un truc encore plus dynamique, j'ai l'impression.
Voilà, donc maintenant la grosse question qui est la mienne, c'est combien de temps avant que Instagram pique cette application, cette fonctionnalité Time Machine à Snapchat. Voilà, normalement c'est le jeu des vases communicants.
Ça devrait arriver pour nous.
Ça ne saurait tarder.
Et ben, ça faisait beaucoup de news Snapchat, hein, pour commencer. C'est très bien, on n'en parle pas trop souvent. Moi, je vais continuer par une petite news côté Twitter. Alors, c'est une news qui aurait pu faire un épisode entier de Super Daily. Twitter lance une nouvelle fonction pour masquer des réponses indésirables à un message. Un message et une réponse à un tweet. Donc, ça fait des années que Twitter essaie d'endiguer la propagation de propos haineux sur son réseau. Hein, on en entend tout le temps parler. Et jeudi dernier, ils ont présenter une fonction permettant aux utilisateurs de garder le contrôle d'une conversation grâce à la possibilité de masquer certaines réponses indésirables. On pouvait déjà le faire sur Facebook, hein, on pouvait aussi supprimer sur d'autres plateformes. Donc pourquoi pas Twitter ? Parce que Twitter a toujours voulu rester un peu indépendant dans sa façon de fonctionner. Et donc apparu à droite des commentaires, tu pourras le voir, une fonctionnalité juste sous la petite flèche à droite d'un commentaire de quelqu'un, d'un de tes utilisateurs, masquer ce commentaire. Donc c'est une réponse au problème des propos haineux sur la plateforme, c'est l'explication de Suzanne Zhang Xi, qui est chargée de produits. Elle dit que tout le monde devrait se sentir en sécurité et à l'aise en parlant sur Twitter. Et pour ce faire, on doit changer la manière dont les conversations se déroulent sur notre plateforme.
Ouais, c'est un gros enjeu pour Twitter, qui s'est toujours un peu positionné comme étant le chevalier blanc de la liberté d'expression, où tout le monde pouvait s'exprimer, etc.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, donc il y a une suite à cet article, c'est retirer la haine, mais aussi éviter la censure. Avec cette fonctionnalité, n'importe qui peut cacher les réponses, déjà à ses propres tweets, les réponses des autres. Mais pour éviter de tomber dans la censure, tout le monde peut continuer à voir les réponses cachées. Et tu peux quand même poursuivre la conversation avec les auteurs de ces tweets indésirables en cliquant sur l'icône grise. Donc on sait que des réponses ont été masquées, mais tu peux quand même choisir de les lire. Et donc la réponse de Twitter à ça, c'est: de cette façon, vous n'avez plus de contrôle sur les conversations que vous entamez, mais les gens pourront toujours... Vous avez plus de contrôle sur les conversations que vous entamez, mais les gens pourront toujours voir la conversation dans son intégralité. Pour l'avenir, nous travaillons sur de nouvelles possibilités de contrôle et une plus grande clarté. C'est vrai que là, c'est un peu... on va masquer les propos haineux, mais il y aura juste un peu moins de monde qui les verront.
Ouais, je trouve que c'est encore pire que tout, en fait. Parce que on sait comment est Twitter, hein, et forcément, ça va être tentant d'aller voir, tiens, les propos les plus véhéments, en fait. T'as l'impression que ça fait un autre feed de réponses.
Ceci a été masqué récemment.
Exactement, c'est horrible, je trouve. Perso, j'avais pas compris ça comme ça. J'avais pensé vraiment que tu pouvais les masquer et qu'ils n'apparaissaient plus. En l'état, je trouve que ça va pas forcément dans le bon sens. Et je vois très bien comment il peut y avoir une dérive de un espèce de jeu à vouloir absolument basculer dans la partie masquée des commentaires, et puis du coup d'avoir là des conversations vraiment dégueulasses
en parallèle,
bizarre. Allez, moi Twitter, parce qu'on parle de Twitter, moi aussi j'ai une news sur Twitter qui cette fois-ci teste la programmation des tweets sur la version web. Enfin, on a envie de dire, parce que c'est assez étonnant, hein, mais Twitter ne permettait pas jusqu'à présent nativement dans son application de pouvoir programmer un tweet. Tu es obligé de le tweeter le jour J à l'heure H.
Ça, c'est ce qui est étonnant, c'est que tu peux le programmer depuis des applications externes, mais pas depuis Twitter, ce qui est tout à fait l'inverse de toutes les plateformes du monde.
Oui, exactement. L'API permet de publier depuis une application tierce. Hein. Tu peux utiliser TweetDeck, hein, qui est le plus connu, mais tu peux aussi utiliser AgoraPulse ou Buffer, par exemple, pour programmer tes tweets. Et bien souvent, nombreux sont les tweetos à le faire. Hein. Et là, étrangement, effectivement, Twitter n'avait pas ça dans ses fonctionnalités natives, ce qui est quand même très, très surprenant. C'est chose faite maintenant, puisque tu pourras, depuis le client web exclusivement, hein, pas encore sur l'appli mobile, et tu pourras du coup programmer un tweet. Donc c'est assez cool, assez intéressant. Je pense que ça permet à Twitter aussi, on le sent bien, hein, les plateformes s'inspirent aussi de ce que proposent les services tiers et essayent petit à petit de rapatrier un certain nombre de fonctionnalités, de programmation, de gestion de commentaires, etc. On l'a vu, Facebook avec le Creator Studio qui a rapatrié pas mal de fonctions liées à Instagram, notamment de programmation de posts sur Instagram. Twitter fait la même chose, intéressant et à suivre.
Facebook avait déjà quasiment tout, alors que Twitter avait rien. C'est ça qui est curieux. Il laissait faire les API, mais ne faisait rien en natif. Donc, là, c'est une très bonne nouvelle pour les tweetos d'origine, ceux qui font tout depuis la plateforme. Moi, j'ai une autre petite news. Écoute, ça concerne les influenceuses et le féminicide. Vous n'aurez sûrement pas loupé cette information. Mercredi dernier, plusieurs comptes d'influenceuses affichaient un carré noir avec leur date d'arrivée sur le réseau et celle du 20 novembre.
Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, oula, décès.
Ouais,
tu vois, ça ressemble à une carte tombale.
C'était un peu l'objectif. Hein, et donc, plusieurs influenceuses se sont mobilisées autour de cette cause. Vous pourrez voir Adriana Trens, Laura Calu, Ziganet. Il y en a une dizaine qui ont suivi le mouvement. Pour résumer, il y avait un petit message sous ce carré noir. Là, c'est l'exemple d'Adriana Trens. Pour une cause très importante, je vais couper mon compte pour quelques jours. Je vous expliquerai tout plus tard. Restez connectés. Ne vous inquiétez pas de tout ce que je fais de mon côté. Cela n'a rien à voir directement avec ma personne. Ça va encore beaucoup manquer de ne rien publier, mais ça va être rapide et c'est vraiment pour une bonne cause. Et plus tard, elles expliquaient par des photos, notamment en manifestation ou des illustrations sur leur compte, le pourquoi de la cause.
Oui, donc en fait, pendant 48 heures, elles ont symboliquement coupé leur compte Instagram pour sensibiliser effectivement à la cause des femmes battues. C'est une campagne de sensibilisation qui a été lancée à l'initiative d'ONU Femmes et qui s'inscrit dans une campagne beaucoup plus large par le hashtag Le Féminicide dans la Loi. C'est une campagne qui dure 16 jours et pendant ces 16 jours de campagne, ils vont comptabiliser, l'objectif c'est de comptabiliser le nombre d'usages de ce hashtag, hashtag Le Féminicide dans la Loi, pour permettre à ONU Femmes de faire remonter l'ampleur de la mobilisation. mobilisation pour la reconnaissance du féminicide dans la loi auprès des pouvoirs publics. C'est assez marrant, enfin le sujet n'est pas marrant du tout, pardon, mais la mécanique est intéressante. C'est pas quelque chose auquel on est vraiment habitué, comptabiliser le nombre d'usages du hashtag. Intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, c'est pas une pétition, c'est encore autre chose. C'est vraiment un mouvement. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un mouvement populaire et social autour de ce sujet.
Oui, c'est vrai que comptabiliser les hashtags, on va le faire plus pour des événements habituellement. Là, c'est intelligent que ça soit utilisé, la comptabilisation soit utilisée dans ce sens-là. Donc, très belle action.
Écoute, moi je voulais absolument ce matin vous parler du Bounty Gate, et pour ce faire je prends une voix un peu d'outre-tombe parce qu'il se passe des choses graves sur internet en ce moment. Ça concerne les barres chocolatées. Je m'explique. Le géant des barres chocolatées Mars Incorporated, tu sais c'est Mars hein, qui possède bah, du coup la marque Mars évidemment, mais aussi Bounty, Snickers,
Milky Way, à peu près tout hein.
À peu près toutes les barres à base de chocolat, et bien tout allait bien pour la multinationale hein, qui croulait sous le pognon. Sauf que le 20 novembre, eh bien, un scandale a éclaté, un scandale grave, avec comme mot-clé du ralliement le hashtag Sneakergate. T'es peut-être tombé là-dessus, hashtag
Sneakergate, curieux, là.
Qui est rentré en trending topics en quelques heures sur Twitter. Que s'est-il passé ? Attention, accroche-toi bien. Au cœur du scandale, une centaine de photos postées par des clients qui ont eu la très mauvaise surprise d'ouvrir un sachet de sneakers et de tomber nez à nez avec un Bounty.
Oula.
Ah, ouais. Ah oui, je vois, tu tombes
tes nuits. Non mais moi, c'est moi, faut pas me faire ça. Si je veux un sneakers glacé, c'est pas un Bounty glacé. Hein.
D'autant plus qu'un Bounty, c'est quand même bien dégueulasse.
Ouais,
on peut
ça
le dire,
dépend.
C'est pas bon. C'est pas bon. Là. Déjà que le sneakers, c'est pas bon, mais alors le Bounty, c'est vraiment un cran en dessous. Et là, forcément, eh ben, la machine s'est emballée. Hein. Donc tu vois ces photos de mecs qui ouvrent un sneakers. Même la barre chocolatée avait un aspect de sneakers, sauf qu'à l'intérieur, c'est du Bounty. Donc c'est très bizarre.
Ils avaient des cuves à vider. Bon.
Du coup, il y a eu des tonnes, il y a eu pas mal de tweets en disant non mais ils ont abusé, c'est n'importe quoi, ils ont pété un boulard chez Sneakers, etc. La machine s'emballe et on parle carrément, alors plein de théories, on parle d'une erreur à l'usine Sneakers comme tu dis, et on a deux doigts de la théorie du complot, hein. Certains vraiment sont allés très très loin. Sauf qu'en fait, eh ben, évidemment c'était un coup de com', évidemment c'était un canular imaginé par Sneakers et son agence CLM BBDO qui se sont appuyés sur la signature de la marque. T'es pas toi quand t'as faim, tu vois, c'est une vieille signature, ça a au moins 10 ans cette signature de Sneakers. T'es pas quoi toi quand t'as faim, parce que 24 heures après le début du scandale, hein, je pèse mes mots, le scandale du Bounty Gate, la marque a publié une vidéo qui s'intitule « Déso ». Donc là, dédicace à Julie hein, qui est dans nos bureaux. « Déso, on n'est pas nous quand on a faim ». Et dans le spot, eh ben, on découvre en fait les effets secondaires de la faim sur les équipes de Sneakers. La vidéo, elle est assez marrante. Enfin, du coup, le buzz est assez rigolo. Et c'est une petite vidéo où on voit un mec qui sort un carton de la chaîne de fabrication, croque dans un Sneakers, tombe sur un Bounty, dit « Waouh, waouh, waouh !» Panique, va voir la table de contrôle. Hein. Tu sais, dans les usines, tu as toujours une énorme salle de contrôle où là, il y a un mec qui a l'air complètement stone et qui en fait a pas à bouffer depuis longtemps et lui dit t'as regardé à quoi ressemblaient tes sneakers, en fait ce sont des Bounty. Voilà, assez drôle, avec l'idée de dire eh ben, effectivement on n'est pas nous-mêmes quand on a faim. Je trouve l'OP fun, c'est pas une OP qui a dû coûter très cher en fait,
non,
tu
c'est
vois
vrai.
Je sais pas ce qu'ils ont fait pour dédommager les pauvres gens.
Ouais, par contre c'est maintenant le buzz, on dit toujours le buzz, ça se fait plus le buzz maintenant, pour faire du buzz il faut aller faire chier les consos en fait.
Bah en fait c'est
tout simplement
t'as raison, en fait c'est eux qui déclenchent le buzz. L'idée est fun, je me demande combien ils ont édité réellement de Sneakers Bounty.
Ah, ils ont dû en faire un paquet. Attends,
pour qu'il y ait des retombées sur Twitter. Parce qu'il y a dû avoir un paquet de gens qui ont juste croqué dedans en disant « Ah, c'est quoi ce truc ?»
Ils ont dû se dire « Allez, c'est simple, pendant 4 heures, on fait que du Bounty.
» Voilà, assez marrant cette opération. Hashtag BountyGate, si vous voulez aller voir quelques photos et voir comment ça a été mené. Je vous mets le lien direct vers Sneakers France sur Twitter sur lequel il y a cette vidéo où on voit à peu près le montage de cette OP. OP assez rigolote.
Eh bien écoutez, merci de nous avoir écouté ce matin. On vous le rappelle, youpi, c'est lundi. Alors on vous souhaite une bonne semaine.
Ouais, youpi, c'est lundi les amis. On vous donne rendez-vous évidemment dès demain. Si vous souhaitez échanger avec nous de tout ça, si on a raté un buzz, parce que c'est lundi, il y a du buzz, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux @supernatif, sur Twitter, sur Facebook, sur
LinkedIn, Pinterest, on commence à être partout,
à peu près partout, pas encore sur TikTok mais ça ne serait tardé. Et puis, on vous donne rendez-vous de demain. Et vous écoutez ce podcast sur une application de podcast. On vous en remercie. N'hésitez pas à le partager avec une pote, un pote. C'est ce qui peut nous faire le plus plaisir, c'est que vous partagiez ce podcast avec un pote.
À très vite et
salut
bonne semaine.
Très bonne semaine. Salut.